Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le Porello ou Beporello, ce nom vous dit certainement quelque chose, il s'agit du valet de Don Giovanni. Jean Dutour de l'Académie française s'est prêté à la fantaisie de revêtir les habits du valet pour revisiter la vie tumultueuse de l'homme aux 1003 femmes. Dans son roman publié chez Plon, tout simplement intitulé Le Porello, Jean Dutour se plaît à railler de nouveau la gente féminine sous les traits de ces deux personnages historiques. Inspiré par l'opéra de Mozart, qu'il cite à de nombreuses reprises tout au long de son roman, Jean Dutour nous offre une vision originale de la vie de Don Giovanni. Alors pourquoi avoir choisi Le Porello comme intermédiaire? L'auteur se trouve-t-il des points communs avec le maître ou le valet? A-t-il écrit ses pages en écoutant Don Giovanni de Mozart ou en relisant Don Juan de Molière? Nous allons pouvoir poser ces questions à Jean Dutour puisqu'il nous fait le plaisir de nous rendre visite au studio de Canal Academy. Jean Dutour, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez publié de nombreux livres, hein, parmi eux Le complexe de César, Une tête de chien, également Au bon beurre, Scène de la vie sous l'occupation, Jeannot, Mémoire d'un enfant et plus récemment Les perles et les cochons, publié chez Plon en 2006, que ma collègue Elisabeth Antebi a le plaisir de chroniquer.
Et en effet.
Et qui a le plaisir de vous recevoir également une première fois au studio de Canal Academy. Alors nous allons revenir bien sûr à Le Porello, qui est donc l'objet de notre émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de Le Porello et par extension Don Giovanni, Jean Dutour?
C'est un peu Don Giovanni qui m'a séduit, qui m'a intéressé. Parce que je trouve qu'il y a une chose qu'on ne dit jamais lorsqu'on parle de ces grands séducteurs d'autrefois, c'est que l'Europe était un endroit extrêmement dangereux et que la syphilis vous guettait à chaque coin de rue. Le tréponème était partout. Et je pense que j'ai toujours pensé que Don Juan avait passé beaucoup plus de temps avec ses médecins qu'il n'en avait passé avec ses maîtresses.
Et justement, c'est ce qui ressort en partie dans votre roman, c'est les périodes où pendant plusieurs semaines, il reste alité, on va dire.
Alité, voilà, comme vous dites. Et le traitement de la syphilis au XVIIIe siècle était quelque chose de terrifiant. Quand on en lit les détails chez des gens qui en ont été affectés ou chez les médecins de l'époque, on s'aperçoit que c'était quelque chose comme le sida aujourd'hui ou un cancer. Enfin, c'est affreux. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens en mouraient.
Pour autant, votre roman n'est pas la vision médicale de la vie de Don Giovanni.
Non, bien sûr, mais c'est une façon d'aborder ce personnage que personne n'a jamais eu, je crois.
Et aussi, sous le regard de son valet?
Le valet est un personnage très important, parce que le valet voit à l'envers des choses. Et moi, j'ai toujours été intéressé par le dessous des cartes. Et les domestiques voient le dessous des cartes, enfin quand ils y voient un petit peu quelque chose.
Pour parler du valet qui le suit partout, hein, dans toutes ses péripéties, je vous propose d'écouter un extrait de l'opéra de Mozart, Don Giovanni.
Monsieur Amédée Mozart, comme il
l'appelle. Amédée Mozart. Et donc, si vous le voulez bien, on écoute un extrait de Madamia, Il Catalogo e Questo.
Madamia, il catalogo e questo. Delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Van fra queste contadine, cameriere cittadine.
C'était donc un extrait des Mozart, hein, l'opéra de Don Giovanni.
Vous auriez dû consacrer toute l'émission à l'extrait d'Amédée Mozart, parce que c'est beaucoup mieux que ce que je raconte.
Ah, vous pensez? Mais non, pas du tout. Alors, ce que vous disiez pendant que nous passions l'extrait, c'est qu'effectivement, au moment de l'enterrement, alors là, on a fait un gros bond en avant, hein, dans l'histoire de Don Juan.
Oui, quand Leporello fait enterrer Don Juan, il fait jouer à ses obsèques l'air du catalogue et l'air aussi très connu de la Cinarem La Mano.
Pour en revenir à cet extrait, effectivement, le valet, le Porello, qui s'appelle Beporello, hein, ce que vous précisez dès le départ dans les premières lignes de votre roman. Ouais. Donc, dans ce catalogue, il explique à la femme qui est en face de lui toutes les maîtresses que Don Juan a eues, à savoir 1003 femmes, 1003.
Oui, moi j'ai toujours pensé, n'est-ce pas, et c'est un des thèmes de ce roman, que Don Juan ou Don Giovanni était une femme. Enfin, je veux dire, pas une femme par le sexe, mais une femme par les goûts, par les tendances, par le caractère, par le tempérament, enfin que c'était un personnage plutôt très féminin. Alors que un autre Don Juan de cette époque, qui est le Casanova, eh ben lui, il est parfaitement viril. Et on le voit d'ailleurs dans la façon dont Don Juan rompt avec ses maîtresses. Il rompt comme une femme.
Alors justement, c'est l'extrait que j'avais sélectionné, donc
alors,
vous voyez, nous sommes...
Allons-y.
Alors, vous écrivez, bien sûr, sous les traits donc de Beppo, « Monsieur Giovanni avait une grande part de féminité. Cela se manifestait par des caprices, des coquetteries, un désir de plaire, des sautes d'humeur et surtout un pragmatisme, un réalisme qui ne sont pas l'apanage des hommes. Par exemple, ceux-ci ne savent jamais rompre avec les maîtresses, qu'ils ne désirent plus. Ils effilochent les ruptures, ils les font durer plusieurs jours ou plusieurs mois, ils espacent les rendez-vous, ils ne devinent pas quand il faut porter le coup décisif à la victime, laquelle ne comprend rien à ses atermoiements et se flatte de l'espoir que ce n'est qu'un refroidissement passager. Les femmes, quand leur fantaisie est passée, le font savoir avec brutalité. Le côté enfantin de leur nature les empêche d'imaginer ce que sera la douleur du malheureux. Elles sont aveugles à tout, sauf à la nécessité de recouvrer la liberté. » Et c'est ainsi qu'agit Don Giovanni à chaque fois.
Mais c'est pas vrai ce que je raconte, hein.
C'est vous qui l'écrivez.
Vous êtes une femme qui le lisait.
Alors, à chaque fois, Don Giovanni apparaît comme un personnage féminin. Certains le décrivaient comme même homosexuel.
Oui, enfin, ça, je ne crois pas. Il est féminin intellectuellement et moralement, il n'est pas féminin. Non.
Mais en même temps, Don Giovanni est bien sûr un grand séducteur. Et finalement, ce que vous laissez paraître, et ce qui était aussi écrit dans les autres ouvrages, c'est que c'est une sorte de vengeance. Il se venge à travers ses multiples conquêtes.
Je crois, en effet, oui. En fait, ma profonde conviction, c'est qu'il n'aime pas les femmes. Je crois que ce qui lui plaît le plus, ce n'est pas tellement de les séduire, mais de les laisser tomber.
Ou alors, peut-être le jeu de la séduction, comme Casanova, peut-être ?
Oui, mais enfin, ça, c'est toujours pareil.
Pour Casanova, justement, le Chevalier de Saint-Gall, vous en parlez aussi dans votre livre, et vous faites rencontrer Don Juan et le Chevalier de Saint-Gall. Oui, or, ça... nous sommes à des époques différentes.
Le Don Juan est espagnol, effectivement, c'est un Don Juan du XVIe siècle de Tirso de Molina.
Oui.
Mais le Don Giovanni est un personnage du XVIIIe siècle.
De Mozart, oui.
Le Don Giovanni de Mozart. Et le mien, je l'ai calqué sur le Don Giovanni de Mozart. Tirso de Molina, il m'embêtait un peu.
Donc Casanova, vous le faites à une comparaison, et effectivement, vous parlez de Casanova comme quelqu'un de plus viril, mais qui n'a pas tout ce charme.
Il en avait beaucoup, hein, parce qu'il a quand même beaucoup de succès, Casanova. Vous avez lu les mémoires de Casanova ? C'est un livre ravissant. Moi, j'aime beaucoup Casanova, c'est un type charmant, il est adorable. Et il est gentil avec les femmes, il les aime bien.
La question que je voulais vous poser portait sur le regard de Don Giovanni sur les femmes ou le regard de Jean Dutour. Car...
Oh, je ne me sens pas du tout parent avec Don Giovanni, à aucun point de vue.
Si je reprends un autre extrait, page 93 de votre livre.
Oui.
Les jeunes filles sont des coquines qui n'ont qu'une chose en tête, trouver un mari, attraper un individu encore plus bête qu'elle et qui sera docile comme un chien sa vie durant. La moindre des éventualités est que dans ces opérations militaires, leur pucelage reste sur le bord de la route. Ce sont les risques de la guerre. Moi qui te parle, j'ai passé des dizaines de pucelages au fil de l'épée. Cela n'a pas empêché mes victimes de dénicher des époux. Donna Elvire, si elle n'avait pas eu ce caractère impossible qui nous a tant donné de Tintouin, aurait trouvé un jeune daim pour la conduire à l'hôtel. On retrouve en même temps cette plume qui vous correspond sur la manière dont vous pouvez parler des femmes, on va dire.
Bah écoutez, je trouve qu'il n'a pas tort là, dans l'ensemble, ce cher Don Juan.
Concernant Donna Elvire, encore un autre exemple.
Vous... Donna Elvire, j'en ai fait une pécore épouvantable.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire.
Oui, oui, elle est d'un transpersonnage.
Alors justement, vous parlez de pécore, c'est ce qui apparaît en quatrième de couverture. Hein.
Oui.
C'est la dernière phrase qui plante le décor. Et sinon, donc page 72, pour requalifier encore Donna Elvire, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donna Elvire, quoiqu'elle fût à peu près aussi intelligente qu'une cruche, avait un don qui, en d'autres temps ou dans une autre société, succès aurait pu faire d'elle une comédienne. Est-ce que vous pensez que nous sommes toutes des Donna Elvire ?
Oh non, bien sûr que non.
Vous me rassurez, Jean Dutour. Alors, ce livre donc, que vous avez publié chez Plon, est-ce que vous imaginez une suite ou pas ?
Oh non. Vous savez, les livres, c'est une trajectoire. Très souvent, j'ai écrit un roman en sachant pas tellement bien où j'allais, parce que si on sait où on va, on n'y va pas. Et bien, très souvent, j'ai écrit un roman et je me disais encore, j'allais encore écrire. Puis tout d'un coup, c'était comme une courbe qui arrivait à son terme. Et je me disais, tiens, c'est fini. Et bien moi, mon histoire de mon affaire avec Don Juan, c'est fini.
Peut-être voudriez-vous poursuivre en racontant l'histoire de l'abbé Bernice, par exemple.
Oh, bah, elle a été écrite, celle-là. Et puis l'abbé de Bernice, il a laissé des mémoires, alors c'est tout à fait autre chose.
Oui, en l'occurrence,
Don
Juan.
Et puis il a beaucoup plus réussi que Don Juan, historiquement, l'abbé de Bernice. Il est devenu ministre des Affaires étrangères, il est devenu cardinal, il était l'ami de la Pompadour, c'est-à-dire de quelqu'un de très puissant et de très intelligent. Non, non, l'abbé de Bernice, il n'y a rien à écrire sur lui.
Quels seraient les prochains sujets vers lesquels vous aimeriez vous tourner ?
Mais c'est pas comme ça que je fonctionne.
Alors comment fonctionnez-vous ?
J'attends que quelque chose me tombe sur la tête.
Et comment le Porello vous est tombé sur la tête ?
Ben comme ça, quand je me suis dit, mais quand même, quand on y pense, Don Giovanni, il a été beaucoup plus joli pour ses maladies que pour ses maîtresses, voilà. Et ça me dit, ah ben voilà, j'ai vu l'angle là. Quand on a envie d'écrire un roman, je vais vous donner le secret. Il faut avoir un ton particulier qui vous est donné par le ciel et qui n'est jamais le même d'un livre à l'autre. Et puis aussi, il faut qu'on ait envie de placer une ou deux phrases dans ce bouquin. Par exemple, l'avant-dernier roman que j'ai écrit, qui s'appelle « Journal intime d'un mort », m'est tombé sur la tête de cette façon-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai vu, écrit comme ça, comme sur une banderole devant moi, il en est de la mort comme de tout, tant qu'on n'en a pas tâté, on s'en fait une montagne. Et je me suis dit, tiens, ça, voilà, le ton y est, et puis l'idée, et puis la première phrase. Et c'est comme ça que j'ai écrit le bouquin, sans trop savoir où j'allais, et puis finalement, une fois que je suis arrivé au bout, je me suis aperçu que c'était là que je devais aller, et pas ailleurs.
Donc vous êtes d'accord que dans Le Porello, bien sûr, c'est Le Porello qui parle, mais qu'il y a également votre ton personnel et...
Ah, bah, bien sûr. C'est un roman, on raconte des blagues dans un roman. On ne dit pas sa propre vérité, on dit une autre vérité, qui est la vérité romanesque. Et puis, Don Giovanni est plus qu'un personnage historique, c'est un personnage mythique. Alors, c'est sur un personnage mythique qu'on peut entasser toutes sortes de choses, toutes sortes de significations.
Alors justement, sur le mythe de Don Giovanni, à la fin, vous ne le faites pas mourir comme dans l'opéra d'Amédée
Mozart. Ah non, il se fait assassiner. Par Donna Elvire, qui ne lui a jamais pardonné de l'avoir laissé tomber. Et elle a pour complice son père, le commandeur, qui est un vieil imbécile, et dont j'ai fait, je crois, un portrait assez rigolo.
Effectivement, le commandeur porte aussi une place importante.
Et il y a... elle le fait tuer. Saigner comme un cochon.
Et pourquoi avoir choisi cette fin si terrible ? Pourquoi avoir fait saigner Don Giovanni ?
Ma fin, elle est moins terrible que celle de M. Amédée Mozart, qui l'envoie aux enfers. Et celle de Molière aussi. Non, je suis plutôt plus gentil qu'eux. Parce qu'une fois qu'il a été saigné, c'est fini. Il est saigné, il est mort, mais il est bien tranquille.
Pour terminer sur le commandeur, qui effectivement a aussi une place importante dans votre livre, il y a ce qu'on pourrait qualifier un passage rabelaisien.
Ah, dites-moi ça.
Sur le repas,
ah oui.
Face à Don Giovanni. Donc, le commandeur n'a pas ressuscité, mais en tout cas, il n'est pas mort suite à ses blessures. Et puis, il se retrouve.
Non, il guérit.
Comment ? Oui, il guérit.
Oui, il guérit.
Il guérit et il se retrouve face à Don Giovanni. Il s'invite chez Don Giovanni. Et le valet, le Porello, fait le repas que le commandeur mange avec plaisir, même un peu trop.
Il y a un salmi de perdreau.
Vous écrivez « Malheureusement, le corps n'obéit pas toujours à la volonté. Au moment où, après avoir dégluti une ultime bouchée et bien savoureuse de salmi de perdreau, il s'apprêtait à prendre sa belle voix d'outre-tombe, La chair, qui n'est pas si faible qu'on veut bien le dire, lui joua un vilain tour. Avait-il avalé de travers? Son estomac était-il distendu par toute la nourriture qu'il avait absorbée? Toujours est-il que ce ne fut pas une parole oraculaire qu'émit son gosier, mais bel et bien un renvoi comme un bédouin ou un cheikh arabe. Ce fut un sonore et beau renvoi très bien conditionné, irrésistible et qui dura 3 secondes pour le moins. D'ailleurs, je le pris pour ce qu'il était, à savoir un naïf hommage rendu à mon talent culinaire. Alors je suppose que vous avez pris plaisir à écrire ces quelques lignes.
J'ai pris plaisir à écrire tout le,
tout le livre.
Il m'a amusé du commencement à la fin. Ce que je ne saurais dire de tous les livres que j'ai écrits. Il y en a qui, de temps en temps, je suis passé par des passages embêtants. Tandis que là, d'un bout à l'autre, j'écris dans la joie, l'allégresse, et une espèce de jeunesse que je n'avais pas connue depuis un certain temps.
Quel livre vous apprêtez-vous à publier, Jean Dutour? Car je suis certaine que vous avez peut-être déjà un manuscrit.
Des manuscrits, j'en ai plein, mais c'est des fausses couches. C'est-à-dire des livres que j'ai menés jusqu'à la page 20, 30, 100 même. Et même 150. Et puis tout d'un coup, pouf, la panne sèche.
Donc vous avez beaucoup de manuscrits comme ça qui sont, on va dire...
Enfin, j'en ai beaucoup, j'en ai quelques-uns,
j'en ai
une dizaine. Qui sont en repos, oui, je crains que ce soit un repos éternel, mais enfin un repos, disons ça. Si j'ai une vague idée en ce moment.
Est-ce que ça reste secret?
Oh, ça reste pas secret, mais c'est plutôt de la superstition. Si je me mets à en parler, je ne le ferai pas.
En attendant, donc, je rappelle le titre de votre ouvrage qui a été donc publié en février 2007, qui s'appelle donc...
Leporello.
Avec l'accent qui vous va si bien, aux éditions Plomb, qui est donc un roman, bien sûr, sur la vie de Don Giovanni à travers le regard de son valet.
Dites-moi, mademoiselle, est-ce que ça vous a amusé?
Ah, énormément. Je l'ai lu d'une traite. Donc, je le conseille, bien naturellement, aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis également, je conseille à nos auditeurs, pour vous connaître un peu plus, d'écouter l'émission d'Elisabeth Antebi,
oui.
Que vous avez réalisée avec elle et que l'on trouve dans notre médiathèque très facilement en libre téléchargement. Merci, monsieur Jean Dutour, de nous avoir accordé cette petite émission sur votre dernier livre, en attendant, bien sûr, le prochain.
Mais c'était une joie que de le faire avec vous, mademoiselle.
Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.